J'ai une pensée qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Odette. C'est bientôt son anniversaire. Elle est chère à mon cœur, Odette, parce qu'elle représente une mamie, une maman, quelqu'un de cher à notre église. Et elle n'est pas là parce que elle est physiquement, la maladie est là et elle ne peut plus se déplacer. Alors Seigneur, on te la présente, mardi c'est son anniversaire, on te la présente, on voudrait que tu la chéris Seigneur, que tu puisses la bénir pleinement dans là où elle est, dans ce qu'elle fait. Tu connais sa fidélité, elle fait des petits carnets et chaque jour elle a une parole et elle travaille cette parole et elle la met dans son cœur. Elle a des pensées pour nous, pour notre assemblée. Elle est vraiment proche de nous, vraiment proche du Seigneur. Voilà, qu'elle soit bénie. Et soyez bénis chacun, dans votre famille, les enfants, les parents. Voilà. Donc je vais continuer la lecture de Le meilleur est devant vous. Donc c'est écrit par le pasteur Martorano, qui vient de l'église Bordeaux Rive Droite. Et je suis dans le chapitre « Laissez-vous vous transformer ». Donc dans ce titre-là, il y a quatre parties. On a vu « Changer de mentalité », la métamorphose, la sainteté vous mènera au meilleur, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et il y a un quatrième, c'est le choix des hommes, le choix de Dieu. On verra ça plus tard. Donc, la sainteté vous mènera au meilleur. Ça, c'est encourageant. Personnellement, je suis vraiment dans ce chemin de sainteté depuis 8 ans que nous sommes dans cette église. Il y a vraiment une transformation qui s'est opérée pour moi, pour ma femme, pour mes enfants. Ils sont en route, mais c'est plus difficile. Et Seigneur, je te remets mes enfants. Qu'ils soient touchés par la grâce, par ta parole. Le péché est une puissance de destruction faisant avorter le plan de Dieu pour nous. C'est quand même terrible. Le péché va nous faire avorter ce que Dieu a prévu pour nous. À l'inverse, la sainteté vous mènera au meilleur. D'une manière ou d'une autre, tout chrétien connaîtra un jour la pression. Il sera encouragé à commettre l'adultère avec une collègue de travail ou tenter de ne pas tout déclarer sur sa fiche d'impôt ou encore fumer un joint à l'école sous la pression des camarades. Les exemples sont multiples. Que faire pour préserver son âme et sa destinée ? Nous voyons dans la Bible le jeune Samuel qui deviendra prophète. Il a grandi dans un contexte corrompu. Ses frères étaient appelés fils du diable tant leur immoralité était connue. Tout poussait Samuel à pécher, mais il est resté intègre malgré son entourage. Il était vraiment dans un milieu où c'était dur. La fidélité et la sainteté de Samuel ne dépendaient pas des circonstances. Ça, c'est un enseignement pour nous. Croire qu'il faut absolument être dans un lieu exempt de toute souillure pour ne pas pécher est un leurre. Adam et Ève ont péché alors qu'ils vivaient dans un endroit merveilleux. Le grand roi David a commis l'adultère alors qu'il était à Jérusalem, dans un palais somptueux. Job et Joseph sont restés droits devant le Seigneur, alors que leur contexte les poussait à l'inverse. Ce sont des exemples qui montrent, quelle que soit la situation, il y a des hommes qui restent debout. En fait, aucun croyant ne peut stopper sa croissance spirituelle du fait d'un mauvais environnement. C'est une question de responsabilité et de choix devant Dieu. Ça, c'est vraiment personnel. Je vous encourage à vous tenir pour l'Éternel. Si Samuel s'était laissé corrompre par son milieu, sa vie aurait totalement été différente. Son choix fait de lui un exemple pour nous, un exemple à suivre. Décidons d'être, malgré notre environnement, des personnes saintes, mises à part pour Dieu. D'ailleurs, les mauvaises influences peuvent nous motiver à plaire davantage au Seigneur. C'est une façon de voir les choses. Quand vous êtes dans un entourage où il y a des mauvaises influences, vous pouvez dire, tiens, c'est Dieu qui me donne un petit coup d'aiguillon et qui m'encourage à être davantage saint. Alors il faut prendre cette décision d'être fidèle. Quand l'Éternel invita Moïse à le rejoindre sur le mont Sinaï, ce dernier prit avec lui un jeune serviteur du nom de Josué. À mi-parcours, Moïse quitta Josué pour se retrouver seul avec Dieu pendant 40 jours. Si Moïse vivait un moment intense avec Dieu, l'expérience de Josué n'était pas aussi glorieuse. Il était là, seul, à attendre 40 jours. Pendant ce temps, le peuple se divertissait autour d'un veau d'or. Josué aurait pu rejoindre le peuple, mais plutôt, il a préféré attendre Moïse. Il a pris cette décision de rester fidèle, même s'il vivait un moment qui n'était pas trépidant. Par sa loyauté, Josué a démontré ce qu'est un véritable croyant. Il ne s'est pas compromis et son cœur est resté entier. En règle générale, il existe une chose que notre Père nous lègue. Ça nous parle, hein. Qu'est-ce qu'il nous lègue ? C'est son nom qui se transmet de génération en génération. Olivier est le patronyme de mon père. C'est le mien. Donc celui de mes enfants aussi. En tant que papa, c'est ma joie, c'est ma fierté de donner mon nom à ma descendance. Eh bien, fidèle est le nom de votre Père céleste. Donc le vôtre également. À l'exemple de Josué qui attendait sur la montagne, nous ne vivons rien de trépidant, peut-être pour certains, mais en général, les chrétiens, on ne vit pas des choses, surtout en Occident. Nous sommes ni à la cime, ni dans la plaine. Nous sommes à mi-chemin. Nous voyons au sommet de la gloire de Dieu et en même temps, les sirènes de la vallée nous invitent au péché, aux choses du monde. Nous sommes en quelque sorte des Josué, à mi-chemin, à mi-hauteur. C'est l'enseignement de Josué. Faisons le choix de rester intègres. Ne dévions pas de notre itinéraire. Le Seigneur Jésus a des plans pour chacun. Restons sur la bonne voie. Demeurons fidèles, même si nous ne vivons rien d'extraordinaire. Je dirais même parfois, on vit des choses difficiles. Josué est devenu leader du peuple, celui que Dieu a utilisé pour conquérir le pays où coule le lait et le miel. Oui, en restant loyal, nous prenons possession de notre terre promise. Ça doit nous parler. Si chacun d'entre nous restons fidèles, Dieu nous donnera cette terre promise, c'est-à-dire notre destinée. Nous sommes invités à rester intègres malgré les difficultés. On va voir un exemple dans la Bible, avec Luc chapitre 1, versets 5 à 7. Luc, chapitre 1, versets 5 à 7. Moi, j'ai la version Louis II, 21, donc il y a peut-être des différences. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Zacharie et Élisabeth, c'est eux qui ont eu Jean, Jean le Baptiste. Alors Luc insiste sur le caractère pieux de ce couple juste avant de parler de la stérilité d'Élisabeth. Nous devons comprendre que la maladie et la souffrance n'épargnent pas les plus justes ou les justes devant Dieu. Tous, nous sommes touchés. Le couple était stérile, mais bénéficiait néanmoins de la faveur de Dieu. Ce qui me touche, c'est leur loyauté malgré la stérilité. Ils sont loyaux. Plusieurs auraient pu se rebeller en disant « Mais pourquoi, Seigneur ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je te sers tous les jours, voilà. Et dans ma vie, je suis stérile. Que devient mon nom, mon ministère, mes espérances ? Tout cela va mourir avec moi. » Zacharie et Élisabeth ne se sont pas rebellés. Ils ont continué de marcher dans la sainteté et l'intégrité. Avant tout, ils craignaient et aimaient Dieu. Bien sûr, ils ont dû être l'objet de bien des rumeurs. Car plus loin dans les Écritures, Élisabeth porte un surnom. Elle est appelée la stérile. C'est terrible pour une femme juive qui n'a pas d'enfant, c'est terrible. Malgré cela, elle et son époux sont demeurés loyaux. On va voir maintenant un autre aspect. Je veux parler maintenant de la tentation. Là, c'était rester fidèle. On va voir maintenant les tentations. Pensez-vous qu'il suffit de résister une seule fois à la tentation pour être débarrassé à tout jamais? La Bible nous dit, on va prendre un exemple, avec Madame Potiphar, mariée à Monsieur Potiphar, officier, chef des gardes de Pharaon. Et la Bible dit ceci, jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et d'être avec elle. Alors ça, c'est un extrait de Genèse chapitre 39, verset 10. Ça, vous pourrez voir après. Mais voilà. Les jours précédents, Joseph avait tenu ferme face à la tentation. Il refusait les avances de cette femme. J'aimerais pouvoir déclarer que par la suite, à la prise de position qu'il avait prise, la tentation était partie. Jusqu'à la fin de sa vie, Joseph vécut heureux, en paix, et que le diable n'essaya pas de le tenter de nouveau. Le passage de la Bible relate au contraire que jour après jour, elle revenait à la charge. Ouh, ça vous parle ? Un autre exemple, avec Jésus cette fois-ci. Quand Jésus sortit victorieux de la tentation au désert, l'évangile de Luc, au chapitre 4, verset 13, il dit ceci. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloignant de lui jusqu'à un moment favorable. Donc, le diable a tenté Jésus pendant 40 jours. Il n'y arrive pas. Il s'éloigne en disant « Je vais attendre un moment favorable. » Ça doit nous parler aussi. le diable attendra toujours un moment favorable. Alors, tant que le diable sera sur terre, il nous fera la guerre. Prions chaque jour. Demandons au Seigneur de nous aider à surmonter le péché, à nous nourrir de la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Ainsi, tout comme Joseph et Jésus, nous tiendrons fermement à l'heure de la tentation. C'est un encouragement que je vous donne, un encouragement pour moi-même, mais pour vous aussi. Ne soyons pas révoltés face à la tentation, car elle est nécessaire à notre croissance. Ça, c'est une chose qui me surprend. C'est nécessaire. Elle est là pour nous faire grandir. Comme les épreuves. Elles sont là pour nous faire grandir. Ainsi, Jésus nous donne-t-il le moyen d'en sortir victorieux? Ça, c'est une parole que vous trouvez dans 1 Corinthiens 10, 13. Jésus nous donne les moyens de nous en sortir victorieux. Alors, après avoir tenu ferme face à la tentation, le Seigneur nous récompensera. Une autre parole. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La tentation peut arriver par ce que je vois aussi, par mes yeux. Job disait : j'avais conclu un pacte avec mes yeux. Il ne devait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune femme. Dans un des ouvrages sur la tentation, l'évangéliste américain Billy Graham soulignait le fait que bien souvent, nous ne pouvons pas échapper à notre premier regard. Effectivement, le premier regard voit des choses. Mais il nous met en garde de faire attention au deuxième regard. Parce que celui-là, c'est le regard de la convoitise et il amorce notre imagination. Quels que soient les domaines de ce que je viens de dire, effectivement, le deuxième regard peut vous mettre en route vers une destinée qui n'est pas celle de Dieu. Quand nous péchons, il y a un processus. C'est un nouveau domaine, là. Quand nous péchons, il y a un processus. L'impureté souille la pureté. Vous connaissez ça. Je vais prendre un exemple. Si je prends une bouteille d'un litre d'eau minérale, une bonne eau, et que je verse quelques gouttes d'eau souillée, d'eau d'égout, et je verse dans la bouteille. Ma bouteille d'eau d'un litre est souillée. Elle est infectée. L'inverse est impossible. Prenez un litre d'eau d'égout et quelques gouttes d'eau pure, c'est toujours une eau infectée. À l'époque de Jésus, les lépreux devaient vivre en marge de la société afin de ne pas contaminer les villageois. Lorsqu'une personne les croisait, ces malades devaient avertir les gens en criant « Impur, impur, je suis impur !» en faisant sonner une cloche, afin que les promeneurs s'écartent de son chemin pour ne pas être contaminés. Historique. Un jour, Jésus croisa un pauvre lépreux soupirant après une guérison divine. Jésus le toucha et aussitôt la lèpre le quitta. Mais il faut imaginer un instant ce qui se passe autour. Les gens qui étaient avec Jésus, c'était la stupeur. Lorsque Jésus posa la main sur le lépreux, on ne pouvait avoir que peur. L'impur allait contaminer Jésus. Eh bien non, c'est l'inverse qui se produisit. Jésus renverse le processus. Notre Seigneur est la source de la pureté. Quelle que soit notre lèpre, c'est une image, quelle que soit notre lèpre, notre addiction ou nos addictions, la haine, jalousie, la méchanceté, l'indifférence, le manque de pardon, tout ce qui nous éloigne de notre relation avec Dieu. Jésus a la capacité de nous purifier, de renverser le processus pour que nous puissions connaître une parfaite délivrance. Merci Seigneur. Nous avons un avocat auprès du Père, toujours prêt à nous défendre, à nous relever, afin que nous puissions continuer notre route. Et c'est une route vers la sainteté, quelque chose qui nous libère. Vivre le péché brisera votre destinée. C'est un rappel. Ne vivez pas le péché. Prenons la décision d'appeler notre avocat céleste. Et ensuite, jour après jour, suivons notre Seigneur Jésus, le bon pasteur. Amen. On va prier maintenant. Alors cette prière, je l'ai faite pour moi, mais elle peut être pour vous, c'est-à-dire vous pouvez la prendre pour vous aussi. Seigneur Jésus, fais-moi grandir davantage dans ta présence. Aide-moi à refuser toute tentation. Aide-moi à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je veux être fidèle. Je veux être intègre malgré les difficultés. Être capable de vivre au milieu du monde sans être souillé. Merci Seigneur Jésus pour ta protection sur ma vie. Merci pour les guérisons déjà accomplies. Merci Jésus pour le projet d'amour que tu as pour moi et ma famille. Merci pour la grâce que tu m'accordes afin de devenir saint et m'amener dans ma destinée. Voilà, je te remercie Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je te remercie aussi pour ce que tu fais pour l'Église. Voilà Seigneur, tu nous prépares. Voilà, je te demande pardon aussi pour tous les manquements, pour la non-écoute de ta parole parfois. Je te demande Seigneur de me faire grandir davantage auprès de toi. Amen.